Bonjour, la table carrée, Thibault de Saint-Nazaire. On est en année présidentielle et les débats, les questions politiques vont se multiplier sur toutes les ondes de la radio et des médias. Et le débat des écologistes a montré que les journalistes politiques n'étaient pas formés aux questions de biodiversité, aux questions, aux enjeux climatiques et aux questions environnementales. C'était criant. Et donc, ma réflexion, c'était de se dire quand est-ce que les journalistes politiques des principaux médias vont se former à ces sujets-là, sachant que les citoyens, eux, montent de plus en plus en compétences sur ces sujets-là. Voilà. Merci. Au revoir.
Oui, bonjour. Je m'appelle Marie-Hélène et j'habite à Sennevières, un petit village du Lot. Voilà, je vous appelle par rapport à l'émission sur les chasseurs, parce que je suis exaspérée d'entendre les chasseurs qui parlent au nom de tous les ruraux. Moi, j'habite dans un tout petit village. À côté duquel d'ailleurs il y a un jeune de 25 ans qui s'est fait tuer l'année dernière par des chasseurs. Donc je suis tout à fait dérangée par les chasseurs qui sont toute la semaine dans nos forêts et je pense qu'il serait normal de partager le temps entre eux et les gens qui veulent profiter des balades, etc. Et je pense qu'ils profitent de leur côté rural pour appuyer leur activité qui est plus néfaste pour les ruraux qu'autre chose. Merci à vous pour vos émissions.
Oui, Patrick Montpellier, votre interlocuteur, il veut rien comprendre. Il a fait son bouquin, c'est bien. Il dit que le pétrole est en train de s'épuiser, mais sur quelle base? C'est pas un technicien. Il a jamais été dans une société qui raffinait le pétrole. Il a jamais été dans une société qui prospectait le pétrole. Il va pas nous parler d'hydrogène, d'électricité, parce qu'il y connaît rien. Donc c'est parfait. Mais je trouve que ce dialogue n'avance à rien. Il y a des technologies qui se développent tous les jours, et ça, je pense qu'il n'est pas capable de nous en parler.
Bonjour la Terre au carré, je m'appelle Sylviane et je vous appelle de Montmorillon dans le sud de la Vienne où je m'occupe d'une petite maison d'édition indépendante, l'Escampette, née il y a 30 ans à Bordeaux. Consciente de l'urgente nécessité de changer nos comportements afin de sauver la vie sur notre belle planète, l'Escampette a décidé de faire sa part, non pas de façon punitive, mais au contraire le plus joyeusement possible. En plus de ses productions de littérature générale, française ou traduite, elle vient de créer une collection des transitions et des solutions qui s'appelle « Saveurs et territoires » afin d'informer, de sensibiliser et de contribuer à l'éducation populaire et citoyenne grâce à la diffusion de ses livres en France, Belgique et Suisse. Le premier livre a pour titre « Éloge des butineuses, sauvons les abeilles ». Le deuxième est titré « Le goût d'un territoire, un futur durable et solidaire dans nos assiettes ». Il traite des circuits courts alimentaires et des nouveaux modèles agricoles plus vertueux. Je vous invite à soutenir non seulement la biodiversité, mais aussi la bibliodiversité en demandant ces ouvrages à votre libraire indépendant naturellement. Merci.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Si tu ne trouves pas l'air d'accueil, eh bien, cherche la déchetterie. Cette phrase est un adage chez les gens du voyage. Et en septembre 2019, l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a mis en lumière les inégalités environnementales dont sont victimes justement ce qu'on appelle aussi les voyageurs. Une aire d'accueil jouxtait en effet la zone Céveso. Pour ces personnes et leurs familles reléguées dans des lieux hostiles, le quotidien est très souvent synonyme d'air industriel, de lieux pollués comme les déchetteries, les cimenteries ou les autoroutes. Et sur presque 1400 aires d'accueil, 51% sont situés à proximité directe de sources de nuisances ou d'installations polluantes. 70% sont isolés et loin de tout. Et c'est une situation que vous dénoncez, William Acker. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste et vous-même issu d'une famille de voyageurs. Et vous avez publié cette année « Où sont les gens du voyage ?». C'est un inventaire critique des aires d'accueil qui est publié aux éditions du Commun. Un sujet dont nous allons donc parler également avec vous, Souhélène Demestre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de ce collectif Les Femmes d'Hélème Ronchin qui se battent depuis 2013 près de Lille pour dénoncer la pollution des aires d'accueil. On va se retrouver donc ensemble dans un instant pour en parler avec les questions, les messages qui arrivent déjà d'ailleurs très nombreux de la part des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr, sur les réseaux sociaux et puis également sur l'appli France Inter où vous pouvez, vous le savez maintenant, nous laisser des notes vocales qui sont très simples d'utilisation. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
À 14h30 on passe au vert.
Avec de bien curieux sponsors.
sort au Congrès mondial de la nature qui avait lieu en septembre à Marseille.
Voilà donc pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Anna Massardier, avec Leonardo Kahn pour les réseaux sociaux et Pauline Laverdure à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Regardez, est-ce que vous avez déjà vu des toilettes comme ça? Surtout en sachant que j'ai 3 enfants. Regardez, c'est du béton peint, des toilettes turques. Regardez les portes, c'est même pas une porte. Ici, apparemment, ce serait des passes de vie pour faire cuire. Mais c'est impossible qu'on fait cuire là-dedans.
Jamila Ameline vit ici depuis plus de 12 ans. Elle nous interpelle sur les conditions insalubres de cette aire d'accueil, située sur un échangeur et construite sur un marécage. La jeune maman réclame à la communauté d'agglomération un terrain familial.
On demande pas grand-chose, on demande un carré avec du gravier et un grillage. Un petit toilette et une petite douche, voilà ce qu'on demande. Après même, on paye notre loyer normalement, notre courant, notre eau, normalement comme tout le monde. Mais juste un petit carré qu'on peut entretenir nous-mêmes, pas sur ces terrains de passage là.
Voilà un exemple parmi tant d'autres, hein, on le verra. France 3 Nouvelle-Aquitaine, c'était en 2019. William Acker, vous êtes donc avec nous, l'invité de la Terre au Carré, juriste. Vous êtes, je le disais, issu de la communauté donc des voyageurs. Hein. C'est comme ça que vous aimez qu'on vous appelle, hein, d'ailleurs. Plus que les gens du voyage, on peut faire un petit point de sémantique, parce que c'est important, je trouve, pour commencer l'émission.
Bah, disons que c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous. Après, gens du voyage, c'est une appellation administrative qui aujourd'hui est d'usage toujours, puisque on a encore des textes réglementaires qui utilisent cette appellation et ouais. Qui est un peu un fourre-tout, qui date de 1969, dont les contours sont aussi un peu flous. Donc voilà, je préfère qu'on utilise le terme voyageur.
Ouais, gens du voyage, Rome, Manouche, Romanichel, Tzigane, Gitan, on mélange tout en fait. Hein. On ne sait pas comment vous appeler.
On mélange tout, on mélange à la fois des dénominations administratives, on mélange des endonymes, des exonymes, c'est-à-dire la façon dont on s'appelle entre nous, la façon dont on nous appelle. On mélange aussi des catégories qui sont plus scientifiques, ouais. Qui sont utilisées dans les sciences humaines françaises, comme Tzigane par exemple, ouais. Qui sont par ailleurs aussi critiquées par les principaux concernés, qui certains ne veulent pas qu'on les appelle Tzigane par rapport à des questions mémorielles, etc. Donc c'est en fait ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a un ensemble de peuples avec des origines communes, en règle générale romani. Oui. Il y a aussi des peuples qui ne sont pas d'origine romani, comme les Yéniches par exemple, et qui il y a ensuite des gens qui ont un mode de vie itinérant, qui sont venus se greffer à tout cela. Et en France, évidemment, vu que les minorités ethniques ou nationales n'existent pas, eh bien tout est regroupé dans un fourre-tout administratif.
Et les institutions européennes parlent des Roms plutôt ?
Les institutions européennes utilisent le terme Rome comme un générique, tout à fait. Un peu comme nous pourrions le faire ici en France, avec le terme gens du voyage. Ouais. Simplement, il est un peu aussi, il faut le noter, c'est-à-dire qu'en Europe, on utilise Rome comme un générique, et en France, on utilise souvent Rome pour distinguer aussi deux situations et deux réalités différentes, celle des gens du voyage dits français, et puis celle des Roms dits étrangers ou d'une immigration récente, ce qui n'est pas tout à fait juste, puisqu'il y a des Roms chez les gens du voyage, et puis il y a des gens du voyage chez les Roms, donc c'est pas aussi simple.
Alors cet ouvrage, Où sont les gens du voyage, cet inventaire critique des aires d'accueil, donc c'est aux éditions du Commun, un livre d'ailleurs qui est en accès libre, hein, je le précise, sur le site directement de votre éditeur.
Tout à fait, voilà, on peut le commander en version physique ou alors y accéder entièrement depuis sa parution d'ailleurs, il est en accès libre sur le site des éditions du Commun.
Alors c'est un livre d'abord que vous dédiez à votre grand-père, parce que pour vous ça a été un vrai travail de mémoire, hein, visiblement.
Alors pour moi, ça a été il y a eu une dimension personnelle dans cette initiative d'aller recenser toutes les aires d'accueil en France. Et puis ça a arrivé dans un moment particulier où je venais de perdre mon grand-père, donc qui lui se battait pour un autre sujet qui est celui de la mémoire et de la reconnaissance de l'internement et de la déportation de certains nomades français pendant la Seconde Guerre, et notamment la reconnaissance des lieux de mémoire, c'est-à-dire la construction de mémoriaux dignes de ce nom, puisqu'aujourd'hui à part quelques statues très discrètes, nous n'avons pas grand-chose en France.
Ouais. Et donc, pour votre grand-père, parce que je crois que c'est lui qui vous a poussé pour que vous deveniez avocat, juriste, c'est ce que vous êtes aujourd'hui, juriste.
Bah, disons que c'était son rêve d'avoir un petit-fils qui devienne avocat et qui combatte. Bon, je suis pas avocat évidemment, mais ouais. Mais voilà, j'ai été un des seuls à avoir fait des études dans ma famille et donc il en était fier et puis je le fais aussi pour lui quoi.
Alors l'aspect environnemental qui est important pour nous évidemment dans cette émission. Comment vous avez eu connaissance justement aussi des conditions de vie, en tout cas de cette analyse des conditions de vie des voyageurs et de la pollution.
Les conditions de vie, j'en ai connaissance tout simplement par ma famille.
Pour vous-même, ouais.
depuis longtemps. Maintenant, le prisme environnemental et notamment celui des inégalités environnementales, je l'ai découvert par le travail d'une chercheuse qui s'appelle Lise Soineau, qui est anthropologue au CNRS qui a travaillé spécifiquement sur ces questions, qui a mis en exergue aussi la relation entre le traitement, on va dire, réservé aux nomades puis aux gens du voyage en France et leurs conditions de vie actuellement. C'est avec elle également qu'on avait initié ce mouvement collectif au tout début, au moment de l'incendie de Lubrizol, puisque tout est parti de là, en fait. Et donc, c'est ce travail théorique-là qui m'a beaucoup guidé. Après, il y en a eu d'autres qui sont venus s'ajouter. Et puis, il y a aussi, surtout, bien, on va dire, plus le travail militant ou directement des personnes qui vivent sur les airs ou des militants qui, depuis plusieurs années, parlent de cette problématique-là, pas forcément sous l'angle environnemental, souvent sous l'angle symbolique. Et l'adage cherche la déchetterie, cherche l'aire d'accueil à côté de la déchetterie, c'est justement ça, c'est de ça que ça traite plus que de la question environnementale, c'est de dire ma place est à côté de la déchetterie. Et ça fait des années que des collectifs ou des voyageurs dans leur individualité s'en plaignent.
Ouais.
Ça fait plusieurs décennies. Puis on peut même remonter à des rapports d'après la Seconde Guerre mondiale qui en traitaient déjà de ces questions. Donc on est sur un sujet qui est très vieux en réalité.
Alors c'est un livre qui est en deux parties, hein, au fond, une partie avec vraiment votre travail d'écriture et puis cet inventaire, ce recensement dans la seconde partie avec ces pages roses où là vous passez en revue tous les départements français parce que vous avez fait vraiment le tour. Quelle a été la méthodologie pour vous pour recenser justement toutes ces aires d'accueil?
Alors, travailler par département, travailler ensuite par intercommunalité, puisque aujourd'hui l'accueil est une gestion intercommunale, donc l'idée première, c'est de localiser l'ensemble de ces aires qui ne sont pas regroupées dans un fichier unique. Donc, ça a mis beaucoup de temps parce qu'il a fallu compiler un certain nombre de documents administratifs. Localiser également les aires qui sont plus ou moins informelles parce qu'il y en a beaucoup, c'est-à-dire des terrains dont les autorités publiques se servent pour de l'accueil, mais qui en réalité n'ont pas vocation à l'accueil.
Ouais.
Et donc, ça a mis énormément de temps. Ça a mis à peu près un an et demi. Et puis à chaque fois, quand on localise une aire, ensuite il faut analyser le contexte géographique. Et là, je me sers des vues satellites. Donc en fait, c'est une méthodologie qui est assez simple finalement. C'est quelques outils informatiques, un téléphone. Et puis plus le projet a été médiatisé, plus j'ai eu d'habitants d'aire qui m'ont contacté, plus j'ai eu de témoignages qui se sont agrégés, qui sont venus enrichir aussi ce recensement.
Donc ça vous a permis d'avoir des chiffres concrets aussi sur une situation finalement qui est mal connue. Et alors sur précisément la situation environnementale et la pollution donc de l'environnement. De ces personnes, c'est plus de 50% justement des aires d'accueil qui sont situées vraiment dans des installations où personne n'aurait envie de vivre.
Oui, 50% et encore, c'est ce qui est visible du ciel. C'est-à-dire que, évidemment, le recensement ne prend pas en compte les questions de vibration, les questions d'odeur, etc.
Ouais.
Et souvent, en fait, j'ai des témoignages d'habitants qui vivent dans des aires que moi j'ai pu classer comme étant des aires qui ne sont pas à proximité de nuisances et qui en réalité sont à proximité de nuisances. Donc le chiffre, c'est vraiment un seuil assez bas et je pense que si on évalue en profondeur et plus précisément, le chiffre serait beaucoup plus haut. Effectivement.
Ouais. Donc ces familles, il faut les imaginer vivant à côté de stations d'épuration, de déchetteries, de carrières, de voies ferrées, d'usines chimiques, de concasseries, d'aéroports, d'autoroutes, d'abattoirs et puis également d'élevage d'animaux, de terrains pour motocross. Ça c'est cette liste que vous avez dressée. Hein.
Oui, et puis il y a encore plein d'autres installations. Il y en a même certaines que j'ai découvertes assez récemment, comme les sites de méthanisation, qui génèrent des nuisances aussi importantes. Et puis il y a aussi des installations qu'on ne soupçonne pas forcément sources de nuisances, comme les cimetières ou les crématoriums, et notamment les crématoriums qui non seulement, au-delà de l'aspect symbolique, génèrent aussi un certain nombre de dépôts de cendres qui est assez traumatisant pour les familles qui vivent à proximité.
William Acker, vous parlez de racisme environnemental. On reviendra sur ce terme avec vous dans un instant. Et puis on discutera également avec Sue-Hélène de Mestre qui se bat justement contre la pollution sur les aires d'accueil. Et bien sûr, amis auditrices et auditeurs, vos messages sur franceinter.fr. C'est Arlo Parks sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Et vous voyez ce camp là, c'est un camp. Il est entouré. Mais tout de même, ça ne vaut pas quand même la nature. Ça ne vaut pas une belle place d'herbe avec de beaux arbres en été pour se mettre en dessous. Il n'y a pas un arbre là. Il y a quelques peupliers, mais enfin, il n'y a pas d'herbe.
Voilà, une archive de l'INA 1976 hein, sur les gens du voyage. Donc, les choses n'ont pas du tout bougé. William Acker, ce serait même pire aujourd'hui avec les pollutions qui se sont aussi multipliées.
Je ne sais pas si c'est pire qu'avant. Je pense qu'on a beaucoup de fantasmes sur l'avant aussi, mais ça n'a jamais été très simple pour les voyageurs français. Donc, je ne suis pas certain que ce soit pire aujourd'hui.
Votre livre, Où sont les gens du voyage, inventaire critique des aires d'accueil aux éditions du Commun. François nous envoie ce message à Antibes. Notre maire, Jean Léonetti, peut s'honorer et le fait savoir d'avoir mis à la disposition des gens du voyage une aire de passage de 50 places. Une quasi-exception pour le département des Alpes-Maritimes, dont les maires se gardent bien de respecter cette obligation, la tolérance zéro. Ça n'est bon que pour leur concitoyens. Ajoutons, dit François, le petit plus de notre bon maire, il a su trouver cette aire au ras de l'autoroute A8 en face de la déchetterie Pizzorno et en zone inondable.
Bah ouais. Et puis les Alpes-Maritimes, ce sont les champions en la matière. Effectivement, les maires se passent tous les astuces, les tips en fait pour éviter l'accueil. Ouais. Voilà, avec des têtes de proue comme Monsieur Léonetti, mais on a aussi Monsieur Estrosi, Monsieur Ciotti, etc.
Sous Hélène de Mestre, vous êtes donc en ligne avec nous. Vous faites partie de ce collectif des femmes d'Hélem Ronchin. C'est près de Lille, hein, c'est ça?
C'est ça, c'est à Hélem, à Lille.
Et vous vous battez, depuis 2013 pour dénoncer la pollution de votre terrain d'accueil. 2013, donc ça fait déjà des années de combat. Racontez-nous pourquoi vous avez créé ce collectif au départ.
Au départ, le collectif a été créé par ma sœur, mes tantes et ma mère. En fait, elles en ont eu ras-le-bol parce que ça faisait un moment déjà que le terrain, l'aire d'accueil était construit.
Oui.
Excusez-moi. Je suis en direct, donc...
Je vous en prie, pas de problème.
Avec le bruit et tout ça.
Non, ça va, vous inquiétez pas.
Ok, donc je disais que ma sœur, ma mère et mes tantes ont créé le collectif par rapport à l'usine de trop. Le terrain a été construit à côté d'une bétonneuse.
Oui.
On a appris plus tard qu'en fait, c'était une erreur de la MEL qui n'avait pas à construire le terrain là où il était parce que c'était en zone de pollution.
Oui.
Après seulement quelques années, on a vu les effets sur la santé des enfants et des personnes âgées. La bétonneuse juste à côté jetait de la poussière, du ciment carrément qui tombait dans les poumons. Les personnes âgées étaient souvent malades, bronchiques sur bronchiques. Les enfants à peine nés, c'était des broncholites, hospitalisés, problèmes de asthme et tout ça. Ensuite, il y a eu la concasserie, comme si qu'il n'y avait pas assez. Quand la concasserie a été créée, les femmes en ont eu marre, elles ont voulu dénoncer. Et c'est là qu'elles ont créé le collectif. Le collectif a fait bouger les choses pour dire qu'il y a pas mal de monde qui sont au courant de la situation.
Oui.
Ils nous écoutent, mais en fait, ils nous entendent pas. Je sais pas si le thème est exact. En fait, tout le monde est au courant. Quand on va voir les responsables, ils nous disent que c'est normal qu'on n'est pas contente, qu'on est en raison, qu'ils nous comprennent, mais qu'ils peuvent pas nous aider.
Ouais, c'est quoi l'argument finalement qui est le plus bloquant, selon vous, pour expliquer l'inertie par rapport à votre situation ?
Moi, je comprends pas. Ils en ont pas d'argument. À chaque fois qu'on leur dit, à chaque fois, ils nous disent, ah oui, ils ont les budgets, mais ils n'ont pas de terrain. Mmh. Ce n'est pas vrai, parce que la dernière manifestation qu'on a eue, et ça, je veux vraiment le dire, on a eu une manifestation au mois de octobre 2019. On a été reçu par la MEL qui est la métropole lilloise, un département qui s'occupe de gestionner les jeux. Les terrains, les aires d'accueil, en fait. Ils ont un département que, quand il y a des plaintes ou quoi que ce soit sur les aires d'accueil, c'est eux qui s'occupent de ça. Mmh. On a été reçus par eux. Ils nous ont expliqué qu'ils comprenaient notre ras-le-bol et que cette fois-ci, ils vont nous reloger en urgence et que ce sera un terrain limite sauvage, qu'il y aura juste une arrivée d'eau et une arrivée de courant, mmh, le temps que le schéma départemental se fasse. En sachant que le schéma départemental est sur 5 ou 10 ans, c'est là où ils gèrent les terrains, les aires d'accueil et où on serait relogé comme il le faut.
Ouais.
Nous avons accepté parce que justement, pour nous, on s'est dit c'est mieux respirer. Et vu qu'on avait l'habitude d'être sur des aires limite sauvages, que c'était notre vie avant, on préférait vivre comme ça et se passer du confort soi-disant, mais au moins respirer.
Soualaine de Maistre, j'ai une question par rapport à ce que vous nous racontez de votre histoire, parce que vous êtes avant tout des voyageurs, et finalement ce qu'on entend, c'est que vous militez aussi pour qu'on améliore vos conditions de vie dans un lieu donné, comme si vous aviez décidé de devenir sédentaire. C'est un choix ou pas de votre part ?
Non, justement, c'est une super question. C'est pas un choix, c'est la société qui décide de nous sédentariser. Parce qu'on peut plus voyager comme avant. Si on décide de voyager, c'est des amendes, être expulsé au bout de 24 heures, les enfants qui sont obligés d'être scolarisés. Si on loupe l'école, on a, comme tout le monde, l'académie qui nous envoie des courriers. Mm-hmm. Donc on est devenu carrément sédentarisé sans le vouloir. Donc ils veulent nous sédentariser, on veut un minimum de confort.
Oui. William Acker, c'est ça aussi le problème au fond, non ?
Le problème, il est partout le même en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire que la France, à l'instar de tous les autres pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc., a tenté de sédentariser ses tziganes, entre guillemets, puisque longtemps le problème a été traité sous l'angle ethnique aussi en France.
Ouais.
Et cette sédentarisation, elle s'est faite de manière non accompagnée, parfois brutale. Ça allait jusqu'à l'internement pendant la Seconde Guerre, hein, c'était un des objectifs de l'internement. Et ça a continué dans les politiques publiques qu'on retrouve aujourd'hui. Et puis c'est souvent vu comme quelque chose de bénéfique, la sédentarisation. Alors qu'on le voit, là, Soulaine le dit, mais plein d'autres le disent. Puis moi-même, dans ma famille, c'est très mal vécu. C'est vécu comme une forme de violence. Et surtout, ça conduit beaucoup de collectifs, qu'elles soient des familles ou individuelles, à l'appauvrissement. Un appauvrissement économique et social.
En tout cas, vous parlez beaucoup aussi de la crispation entre la population en général et les voyageurs, précisément. Il y a beaucoup d'incompréhension, visiblement, ce qui permet aussi de comprendre pourquoi on relègue aussi ces familles très très loin des centres-villes. Ça aussi, c'est un problème de communication, tout simplement, entre les personnes.
C'est pas qu'un problème de communication, c'est que il y a deux parties dans l'histoire. En tout cas, on le présente comme ça, c'est-à-dire les voyageurs d'un côté et les sédentaires de l'autre. Sauf que la société qui est sédentaire nous demande en gros de disparaître. C'est-à-dire qu'elle conditionne notre acceptation à notre disparition, en tout cas à la disparition d'un certain nombre de modes de vie de très culturels.
Mmh.
Et ça, évidemment, c'est des conditions qui sont difficilement acceptables et qui engendrent des résistances. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont accepté au fur et à mesure de se faire sédentariser, qui sont rentrés dans les rangs, comme on pourrait dire. Et puis, il y en a d'autres qui continuent de résister au quotidien. Et ça, évidemment, ça génère des problèmes.
Sous Hélène, j'imagine que ces tensions, évidemment, avec le reste de la population, vous les vivez tous les jours. Alors, je vous cache pas qu'il y a des messages très agressifs qui arrivent d'ailleurs sur Facebook pour réagir au sujet de l'émission d'aujourd'hui. Je vous donne ce message, sous Hélène, de Gilles qui nous écrit. Je pense, dit-il, que l'environnement est le dernier des soucis des gens du voyage quand on voit comment ils saccagent les aires d'accueil et dans l'état qu'ils laissent les endroits qu'ils squattent illégalement. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre?
Parce qu'il sait pas. Je l'invite à venir une semaine chez nous, même pas, une journée, voir si monsieur pourrait manger dehors. Il dit que l'environnement, on s'en fiche, mais monsieur, notre aire d'accueil à nous est super, elle est entretenue, et le ménage est fait, et pourtant on est obligé de le faire tous les jours, et deux fois, trois fois par jour, tellement il y a de la poussière. Notre aire à nous, il n'est pas du tout saccagé ou quoi que ce soit, et on paye. Il faut pas oublier qu'on paye un loyer plus que monsieur, j'en suis sûre. On n'a pas d'aide sociale, alors qu'ils veulent nous sédentariser. Et ils répondent à quoi, le petit monsieur, là?
William Acker, ça vous surprend pas du tout ce type de message, hein. Vous m'aviez dit d'ailleurs avant l'émission, vous allez avoir une avalanche de messages haineux.
Oui, c'est le lot commun, c'est les messages haineux, les menaces, les appels, voilà. On a l'habitude, hein. Après, effectivement, ça dénote aussi le fait qu'il y a une très grande méconnaissance de ce sujet-là.
Oui.
Les gens confondent à peu près tout, c'est-à-dire ils confondent les installations illégales avec les aires d'accueil, qui parfois sont intimement liées en fonction des territoires, hein. Des fois, il n'y a pas assez de places d'accueil, en fait, tout simplement. Il faut aussi savoir que les aires d'accueil sont soumises à des autorisations temporaires de stationnement, donc on n'y reste pas à l'année, on se fait régulièrement expulser, qui génère énormément d'instabilité. Et puis, comme le disait Sue Hélène, il faut rappeler que les voyageurs n'ont pas accès aux APL, parce que la caravane n'est pas considérée comme un logement. Et donc, à ce titre, il y a un certain nombre de familles qui sont en situation de précarité, qui n'ont pas les moyens de payer les aires d'accueil, qui sont évidemment toutes payantes.
Allez, la pollution dans l'environnement des aires d'accueil des gens du voyage, on en parle dans la Terre au Carré. Vos messages également, vos notes vocales sur l'application France Inter.
France Inter. La Terre au Carré.
Comme tous les jours, bien sûr, et même à Marseille, Camille Cronier et Camille Passauvert.
Et je vais peut-être plomber un tout petit peu l'ambiance. Alors, je vous préviens, parce que, on a beau, nous, être à fond, hein, sur le Congrès mondial de la nature, sur l'UICN, c'est pas une évidence pour tout le monde, même ici, à Marseille.
On sait qu'on a eu la visite de notre cher président, mais à part ça.
Il y a le Congrès mondial de la nature. Vous en avez entendu parler ou pas?
Non, pas une zeste. Non, honnêtement, non, pas une brique.
Vous savez ce que c'est, l'UICN?
L'UICN? Non.
Non, elle sait pas, mais on la pardonne en même temps, à part les spécialistes, il n'y a pas grand monde qui sait. Donc je le rappelle, si vous voulez briller ou pas dans les dîners, Union internationale pour la conservation de la nature, dirigée par le Suisse Bruno Oberlé, qui m'a expliqué le but de ce congrès mondial de la nature.
Il y a des millions de personnes autour du monde qui s'engagent pour la nature. Et une fois chaque année, tous ces gens se rencontrent pour faire le point. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Comment on peut avoir plus d'impact sur les discussions politiques en cours? Nous voulons que les gens comprennent que c'est urgent de prendre des actions pour protéger la nature, que c'est urgent qu'on change nos comportements, qu'on change les décisions des entreprises, qu'on change les décisions d'investissement que les banques prennent chaque jour pour tenir en compte les intérêts de la nature et le fait que sans la nature, nous ne pouvons pas survivre.
Alors c'est marrant qu'il parle des entreprises et des banques en particulier, parce que dans la cinquantaine de sponsors et partenaires, il y a BNP Paribas et Caisse d'Épargne, qui font partie des banques qui ont le plus financé les énergies fossiles ces dernières années, plus, et c'est même l'un des principaux sponsors, il est tout en haut sur la page internet, niveau platine, c'est écrit, Nutella, qui n'a pas échappé à la primatologue Sabrina Krief.
C'est vrai que ça fait un choc, ça fait quand même des décennies qu'ils ont contribué à la déforestation.
La déforestation causée par la culture de l'huile de palme, 20% de chaque pot de Nutella, je le rappelle, en particulier en Malaisie où il se fournit, mais le groupe Ferrero se défend dans une vidéo.
L'huile de palme durable que nous utilisons respecte l'environnement, protège et préserve la biodiversité.
Alors j'ai demandé ce qu'elle en pensait à Adeline Favrel, responsable forêt chez France Nature Environnement.
Non, ce n'est pas possible. Après, ça dépend ce qu'eux entendent derrière. J'imagine que peut-être qu'ils font de la restauration, mais ce n'est pas sur les champs même que vous allez pouvoir avoir une huile de palme qui protège la biodiversité.
Parce qu'en fait, les dégâts passés et présents, de toute façon, sont réels.
La culture en elle-même fait quelque chose. Tout d'abord parce que c'est des monocultures, donc de grands espaces, donc vous n'avez dans ces champs-là, plus de biodiversité. Vous avez aussi un deuxième problème, c'est que c'est des cultures qui ont souvent recours à des pesticides. Et donc, du coup, il y a des gros impacts à la fois pour la biodiversité, évidemment, mais aussi pour les populations.
Alors, du coup, j'ai demandé une petite explication sur ces sponsors. On n'oublie pas, hein, donc, aussi les banques BNP Paribas et Caisse d'Épargne, au directeur Bruno Oberlé.
C'est des institutions qui représentent les gens normaux. Nous avons tous des livrets bancaires d'épargne. Nutella, je crois que chaque deuxième enfant mange la Nutella et aime la Nutella. Donc, le fait qu'ils soient ici, qu'ils soient disposés à soutenir, même financièrement, un congrès sur la nature, ça veut dire, et c'est la précondition pour accepter leur argent, qu'ils sont rentrés dans une discussion positive, qu'ils se posent des questions.
C'est pas acheter une bonne conscience plutôt pour eux?
Nous, on ne vend pas des consciences. Nous, on demande aux gens de changer leur habitude.
Et j'ai posé la question également à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, présente au congrès.
Si on veut vraiment réussir à sauver la biodiversité, il faut absolument qu'on rassemble tout le monde autour de la table.
Mais entre travailler avec et sponsoriser un événement comme celui-là, il y a un petit décalage. Ben,
sponsoriser un événement, ça veut dire lui fournir des moyens. Le name and shame, je suis pour. Mais le name and shame, ça n'a de sens que si on regarde objectivement le point A et le point B. Alors, si vous l'avez fait, je suis d'accord.
Justement, BNP Paribas, Caisse d'Épargne, qui sont dans les banques les plus polluantes, qui ont le plus investi dans les énergies fossiles ces dernières années, là, c'est des faits, c'est des rapports qui sont sortis, qui sponsorisent aussi l'événement.
Oui, bah justement, on leur a dit maintenant qu'il y avait intérêt à se bouger.
Alors, pas trop méchamment quand même, hein, parce qu'elle l'a dit, et c'est ça en fait qui est en dessous de tout ça. C'est le manque de moyens tels qu'il faut en venir à obtenir des financements de ces entreprises. L'ONU estime qu'il faudrait 3% du PIB mondial pour sauver la planète, donc de l'argent des États, je le rappelle. Hein. C'est aujourd'hui 0,10%.
Camille Passauvert, c'est à réécouter sur franceinter.fr, dans un instant suite de notre dossier sur la pollution environnementale des aires d'accueil.
Inter, une rediffusion de La Terre au Carré.
Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour, et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours, oui, je t'ai quitté. J'ai beau résister, je chante parfois à d'autres que toi, un peu moins bien chaque fois. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais plus pourquoi.
Mon amour, mon ami, c'était la voix de Marie Laforêt et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
Plus d'une semaine après l'incendie de l'usine Lubrizol, les stigmates de la catastrophe industrielle sont encore perceptibles chez les résidents de cette aire d'accueil de gens du voyage de Petit-Quevilly, située à 500 mètres de l'entreprise rouennaise.
Avant-hier dans la nuit, une grosse odeur, je dormais, ça m'a réveillé. Et là, j'ai senti qu'il y avait l'odeur, ça me piquait, ça m'a piqué au nez. Et j'ai respiré, comme j'ai respiré, j'ai senti que dans la gorge, c'était pas avant que je me suis élevé, et là, j'ai fait un aérosol.
La centaine de riverains est encore sous le choc et déplore le manque d'informations la nuit du drame. Des policiers leur ont dit de rester sur place, alors qu'à quelques mètres, le feu était toujours en cours et que tout le monde était paniqué par les explosions entendues.
Il fallait rester dans la caravane, confiné dans la caravane. Mais une caravane, c'est pas un lieu de confinement. C'est comme si on était dans une voiture, une caravane. On peut pas nous laisser là, dans des zones dangereuses comme ça, avec des enfants. Parce que la dernière fois, c'était le gaz en 2013. Jeudi, c'était le feu, l'usine qui a brûlé. Et demain, ça sera quoi alors ?
Voilà, reportage de France 3 Normandie. Mais il y a deux ans, hein, c'était en octobre 2019, quelques jours après l'accident dans cette usine de produits chimiques de Petit-Quevilly, donc près de Rouen. William Acker, l'aire d'accueil de Lubrizol n'avait aucun lieu de confinement pour se protéger d'un tel accident ?
Comme beaucoup d'aires d'accueil, en fait, le problème étant qu'une aire d'accueil n'est pas construite et conçue comme une zone d'habitation.
Ouais.
Et que donc, contrairement à certaines réglementations en vigueur pour les maisons aux alentours de ces usines dangereuses, les habitants des aires d'accueil n'ont accès à aucun local de confinement.
Ouais.
Justement, après Lubrizol, des journalistes avaient fait l'expérience sur l'aire de Saint-Menet à côté de Marseille, demandant où était le local de confinement, et les agents se sont retrouvés bien embarrassés. Ils leur ont montré un local de confinement à 20 minutes de marche à pied, donc ce qui est un peu ridicule.
Ouais.
Et puis, plus généralement, en fait, ce sont des accidents qui arrivent assez souvent, puisque au CIAP de Saint-Germain-en-Laye, aussi l'année d'avant, en 2018, il y avait eu un incendie qui avait aussi causé, en tout cas, l'exposition des fumées aux habitants de l'aire d'accueil qui était à proximité.
Dans votre ouvrage « Où sont les gens du voyage ?», page 213, vous parlez d'une habitante en décembre 2019, justement, qui interroge le député Damien Adam, rapporteur de la mission, et qui lui demande pourquoi son aire d'accueil est localisée entre deux sites Céveso au seuil. Seuil haut, pourquoi les autorités refusent de prendre des mesures de relocalisation d'urgence et pourquoi les gens du voyage sont toujours situés à proximité de déchetteries et d'usines. Et sa réponse, c'est la pression foncière.
Oui, bah c'est tout le temps la réponse en fait qui est avancée. Mais le problème étant qu'une aire d'accueil est un équipement public, donc il n'y a pas de problème de pression foncière pour les autres équipements publics. Et encore pire, il n'y a pas de problème pour les autres équipements publics à vocation d'accueil des habitations mobiles comme les aires de camping-car qui, elles, sont toutes situées à proximité de la mer, des centres-villes, ou même les campings municipaux qui sont plutôt réputés pour être situés dans des coins assez intéressants.
Solène Demestre, j'ai une dernière question à vous poser. Vous qui faites partie de ce collectif donc des femmes d'Hélème Ronchin près de Lille, est-ce que vous avez du soutien, beaucoup, de la part, par exemple, des associations écologistes de la région ?
Non, pas vraiment, parce que on n'en a pas vraiment de contact avec eux.
Mais c'est peut-être eux qui pourraient vous aider, non ?
Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que tout le monde ne connaît pas le collectif, c'est ça aussi. Mm-hmm. Quand ils en entendent parler, bien sûr, c'est les premiers à venir nous solliciter pour savoir s'ils peuvent nous aider ou quoi.
Oui.
Mais les associations qui viennent, c'est des petits collectifs, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, ils sont comme nous, quoi. On essaye avec des petits journaux locaux, avec des personnes, on se fait entendre. Voilà, là on va passer à la radio, enfin, le collectif, il y aura un petit peu de reparti, mais ça va pas aider grand chose.
Ouais.
Après, si ça permet aux gens d'ouvrir les yeux sur les aires d'accueil et qu'ils arrêtent de juger les gitans, les gens du voyage, et qu'ils comprennent mieux comment on vit, c'est un pas de plus.
William Acker, comment vous expliquez justement qu'il n'y ait pas plus de soutien de la part des écologistes ?
Bien, c'est toujours la question.
Parce que là, on est vraiment sur un vrai sujet d'écologie.
Oui, hein. Non, mais c'est pas encore vu comme un vrai sujet d'écologie par beaucoup, parce que on oppose souvent l'écologie aux conditions de vie. Et puis, vu que les gens du voyage, leur présence est conçue un peu, enfin, dans l'imaginaire collectif, c'est une présence qui pollue, en fait.
Elle-même.
On a une présence dangereuse, parasitaire dans la société depuis plus d'un siècle, en fait. Donc, c'est difficile de faire la part des choses. Et puis souvent, en fait, on oppose la construction d'une aire d'accueil à un problème écologique. Ce qui s'est passé, par exemple, à Clé-Souilly avec l'aire de Grand Passage, des gens du voyage qui devaient être localisés dans une zone d'intérêt écologique et qui a finalement été annulée pour ces raisons-là. Alors que l'année d'avant, on avait justement pas hésité à mettre les gens du voyage dans la plus grande déchetterie d'Europe, dans cette ville. Donc, voilà, c'est tout le paradoxe.
On va écouter la note vocale de Marie qui nous a envoyé juste à l'instant un message de Niort.
Oui, bonjour. Je voulais simplement dire que merci pour cette émission qui, pour le coup, m'apporte un véritable éclairage sur les conditions de vie des voyageurs. Alors, j'étais pas sans ignorer, bien évidemment, qu'elles étaient difficiles et pénibles. J'ai bien conscience qu'elles sont très différentes des miennes, des nôtres. Donc, je voulais simplement apporter mon soutien, même dérisoire, mais mon soutien à votre intervenant qui est extrêmement intéressant, très brillant, et à Sue Hélène pour son témoignage qui, moi, en tant que mère de famille, résonne totalement en moi. Voilà, donc toute ma sympathie et tout mon soutien aux gens du voyage, et je serai davantage soucieuse la prochaine fois que j'en croiserai.
Voilà, Sue Hélène, qu'est-ce que vous souhaitez répondre à Marie? C'est pour vous ce message, hein, directement.
Oui, j'ai entendu, ça me fait très plaisir. Franchement, c'est pour ça que justement j'en parle, pour que justement une femme se mettra plus facilement à ma place, parce que c'est une maman et elle sait très bien ce qu'on endure quand on voit son enfant malade. Donc c'est tout le combat de toutes les mères, donc c'est super. Merci, si elle a très bien compris. C'est notre but, le but du collectif, c'est de faire savoir comment on vit et qu'on n'est pas des sauvages, on est aussi français qu'eux.
Et ça fait 8 ans que vous menez le combat, hein, on le rappelle.
Oui, 8 ans en espérant qu'un jour ça bouge.
Ouais, et que ça s'arrête aussi, ce serait bon signe en tout cas pour votre quotidien.
Carrément. Oui, bien sûr.
Voilà, le collectif des femmes d'Hellem Ronchin, donc près de Lille. Je sais qu'on doit vous libérer, Sue Hélène de Maistre, mais je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Merci dans La Terre au Carré. Et sachez que vous avez énormément de soutien également sur les réseaux sociaux de l'émission. À bientôt. William
merci
Acker,
encore.
À bientôt, merci. Un message de Anne sur Twitter qui nous dit « Super sujet, merci de le traiter car on n'entend pas assez souvent parler des conditions d'accueil des gens du voyage. » Tout le problème c'est ça, c'est l'invisibilité. Hein.
C'est l'invisibilité et puis il y a aussi un intérêt à rendre cela invisible. C'est d'ailleurs pour cela que la majorité des aires sont polluées, c'est parce que on ne supporte pas de voir les gens du voyage dans notre quotidien et dans nos villes. Mmh. Et donc, on les relègue à l'extérieur et ensuite, ils se posent la question des coûts de raccordement à l'électricité et la viabilisation des terrains, ce qui fait qu'on rapproche les aires d'accueil à proximité d'autres sites qui ont eux-mêmes été éloignés pour des raisons de nuisance environnementale le plus souvent.
Mmh. Mehdi sur Facebook nous dit « Comment les voyageurs perçoivent-ils le fait que leur aire d'accueil soit située dans des zones parfois grillagées ? Quelles sont les raisons avancées par les collectivités ? Et merci pour cette émission. » Mission, dit-il, et soutien aux voyageurs.
Bah oui, c'est certainement qu'il parle de l'exemple de l'aire d'accueil de Thiel dans l'Ain qui a défrayé la chronique récemment, ouais. Avec des barbelés qui entouraient l'aire. Eh bien, comment ils le perçoivent? Déjà qu'une aire, c'est souvent vécu comme une forme d'encampement qui rappelle aussi le traitement qu'ont reçu nos arrière-grands-parents et nos grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, puisque se sentir à l'écart, se sentir entre nous, que entre gens du voyage aussi. Il y a ce problème-là aussi, c'est-à-dire que on nous regroupe, on nous met à l'extérieur et on nous parque. Donc forcément, c'est mal vécu, et a fortiori quand il y a des barbelés. Mais c'est pas l'aire de Thiel, c'est pas une exception. Il y a d'autres aires avec des barbelés, et ça, évidemment, ça pose problème. Et des aires avec des aires anti-intrusion, et des aires avec des équipements de guerre quasiment pour retrancher les gens du voyage. Et les arguments qui sont avancés, c'est la protection souvent des entreprises environnantes. Ouais. Donc là, c'était le cas par exemple à Thiel. C'est les entreprises qui ont réclamer ces barbelés pour pas que les gens du voyage viennent envahir leur site, alors même qu'ils n'avaient jamais eu de gens du voyage à proximité. Donc c'était assez curieux.
Ouais. Comment on peut considérer des êtres humains comme des parasites? Au fond, c'est le terme que vous avez employé tout à l'heure, oui. Sur les représentations qu'on a justement des voyageurs.
Écoutez, j'emploie ce terme-là en le pesant. C'est-à-dire que moi, c'est l'insulte que je reçois le plus souvent. Hein. Le parasite, voilà. Comment on peut considérer cela comme ça? Je sais pas, c'est une construction historique. Je pense que l'État même a considéré les gens du voyage comme des parasites pendant longtemps. Et d'une certaine manière, certaines pratiques publiques s'inscrivent dans cette continuité. Il y a eu des lois discriminatoires en France. Il faut rappeler quand même que jusqu'en 2012, près de les trois quarts des gens du voyage n'avaient pas accès au droit de vote. Il faut rappeler que il y avait un quota de gens du voyage jusqu'en 2015 de 3% par ville. Mmh. Enfin, on revient de très loin. Et il y a une gestion ethnique du phénomène qui ne dit pas son nom en France. Et malheureusement, ça explique, enfin, tout cela, en fait, c'est des illustrations de traitement aussi et de crainte, de peur qui remonte jusqu'au 18e, 19e ouais. siècle. Donc c'est fortement, très, très profondément ouais. ancré.
Comment on peut travailler justement sur le rapprochement au fond des gens, entre la population, les voyageurs? Est-ce qu'il y a des choses à faire précisément pour essayer de rendre les choses plus poreuses? Parce qu'on voit ces frontières qui s'érigent entre les personnes.
Je pense qu'il y a des choses à faire à tous les étages de la vie commune et sociale. Déjà, à cesser de séparer les gens dans l'urbanisme et dans la conception des villes. L'intégration du mode de vie itinérant dans les villes, c'est un mode de vie qui sera de plus en plus nombreux, et puis l'habitat léger va prendre de plus en plus de place. Donc lorsque l'on traite d'une certaine manière les gens du voyage, en fait, c'est toutes les personnes qui vivent en habitat mobile qui sont plus ou moins menacées aussi. Hein. D'où l'intérêt de certaines associations comme Hellem, par exemple, qui regroupe à la fois des gens du voyage, des sédentaires qui vivent en habitat mobile, etc. Et puis ensuite, eh bien, c'est voilà, ça se fait à tous les échelons de la société, au niveau de l'école, au niveau de tout plein de choses. Il y a énormément de domaines où on peut améliorer les choses.
Bruno demande, les voyageurs sont-ils représentés pour défendre leurs intérêts et dans quelle instance ?
Oui, ils sont représentés dans deux types d'instances, des instances locales qui sont des instances de consultation au niveau des départements. Le problème étant que souvent les associations qui les représentent ne sont pas du tout composées de voyageurs, ce qui fait qu'en fait on dit consulter les gens du voyage mais sans jamais les consulter. Ouais. Il y a d'autres soucis, c'est que moi par exemple on me contacte récemment, une intercommunalité m'a contacté pour aider à élaborer le schéma sur des questions de scolarisation qui n'est pas du tout mon domaine, et j'aurais demandé mais pourquoi vous ne consultez pas les voyageurs dans vos aires d'accueil. Ils m'ont dit mais ils défendent leurs propres intérêts. Ils s'attendent à... Je ne sais pas à quoi en fait les instances s'attendent. Et puis au niveau national, il y a une commission consultative nationale qui regroupe les 5 ou 6 plus grandes associations de défense des droits des gens du voyage, mm-hmm. et qui là aussi est uniquement consultative.
Ouais. Voilà. William Acker, vous êtes juriste. Vous êtes, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, voyageur vous-même. Où sont les gens du voyage ? C'est cet inventaire critique des aires d'accueil que vous publiez aux éditions du Commun et que l'on peut lire gratuitement en allant cliquer sur le lien justement de l'éditeur. On vous retrouve dans un instant. Il y a encore beaucoup de messages pour vous de la part des auditeurs de la Terre au Carré. Et les notes vocales sur l'appli France Inter.
Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du canis. C'est une musique qui plaît.
Et là, il nous écoutait.
Et je n'en ai fait qu'à ma tête.
Ouais.
Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé. Au bord de la mer, les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, et j'en ai bien pas au conseil, pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon, une ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer.
Chatterton.
France Inter. La Terre
au carré.
Le juriste et voyageur William Acker avec ce livre « Où sont les gens du voyage ?» Inventaire critique des aires d'accueil. Ce message d'Henri sur le site de l'émission militant de la Ligue des droits de l'homme dans les Alpes-Maritimes. Je confirme les propos de votre invité sur le refus des responsables municipaux de ce département de respecter la loi qui les oblige, à partir de 5000 habitants, de prévoir des aires d'accueil dans leur espace municipal.
Oui. Et en plus, la loi, alors depuis récemment, il y a des amendes forfaitaires qui peuvent être appliquées, enfin en tout cas des astreintes forfaitaires plutôt. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le long terme, mais jusqu'alors, il n'y a pas de contraintes particulières pour les communes qui ne respectent pas en fait. Ouais. Et puis il y a tout un tas de stratégies d'évitement aussi qui s'est développé avec le temps, et notamment on joue sur les délais en repoussant de plus en plus les projets de construction.
Il y a un terme très fort qu'on a employé tout à l'heure, c'est racisme environnemental. J'avoue que je ne l'avais pas vraiment souvent entendu. Il s'applique parfaitement aux gens du voyage. Alors, ou il faut l'employer avec beaucoup de précautions.
Moi, je l'emploie depuis pas très très longtemps. En réalité, c'est un terme qui est né aux États-Unis, qui est issu des luttes afro-américaines.
Pour les peuples autochtones en particulier, ou pas?
Surtout pour les afro-américains qui, aux États-Unis, dans les villes, vivent dans les quartiers les plus pollués. Mm-hmm. Et donc, qui démontrent aussi un lien entre la discrimination raciale parfois et l'atteinte, les inégalités environnementales. Et c'est un terme qui a été repris par le Bureau européen l'environnement récemment en Europe, sur la situation des Roms en Europe de l'Est. Et en réalité, ça, c'est un terme qui est intéressant parce qu'il permet d'interroger les liens entre l'antiziganisme, ce racisme particulier qui touche les gens du voyage, et leurs conditions aujourd'hui de vie. Les deux n'étant pas complètement étrangers l'un à l'autre. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est qu'en France, on a un système qui ressemble parfaitement à ce qui est décrit dans la notion de racisme environnemental, c'est-à-dire qu'on a des lieux qui sont choisis par la puissance publique pour un groupe qui, historiquement, est appréhendé par son ethnicité, et qui est une succession de lieux indignes et de lieux ségrégés, séparés des espaces d'habitation, des espaces de vie dans les villes.
On va écouter le message, la note vocale de Philippe, message critique, il nous appelle de Bourges.
Bonjour. On comprend très bien l'intérêt de votre émission qui tend à mettre un petit peu de clarté dans cette problématique difficile. Pourtant, je trouve que si vous vouliez faire une émission pour, mettre en valeur les gens du voyage et justement critiquer les mauvaises conditions d'accueil qu'on leur fait, c'est très bien, mais je pense que votre point de vue est tout à fait partial, d'autant qu'il s'agit d'une émission sur l'environnement.
Eh bien, on parle pourtant bien d'environnement avec la situation des gens du voyage. William Acker, l'aspect partial, alors il vaut pour apparemment l'équipe de la Terre au Carré.
Mais il vaut pour moi. Encore heureux que je sois partial. On va dire qu'aujourd'hui, si vous tapez gens du voyage dans une barre de recherche Google, vous avez à peu près 98% des articles qui parlent d'installations illégales, etc. Donc, pour une fois qu'il y a une voix un peu dissonante et qui apporte un autre éclairage, je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, il ne faut pas tout confondre. Effectivement, il y a des installations illégales. Effectivement, ça se passe mal parfois. Effectivement, il y a des gens qui se comportent mal chez les voyageurs, comme dans toute la société. Effectivement, un équipement public qui accueille plusieurs milliers de personnes par an se dégrade, surtout s'il n'y a pas d'entretien. Et c'est un des problèmes majeurs et fondamentaux des aires d'accueil aujourd'hui. Et ensuite, la destruction des aires qu'on entend souvent parler, ce sont souvent lors des périodes de fermeture administrative par des riverains qui ne veulent plus avoir d'aires d'accueil à proximité. Donc ça aussi, il faut mettre de la nuance aussi dans ces propos.
Vous citez l'exemple d'une aire d'accueil, je crois que c'est Petit Quevilly d'ailleurs, où les personnes n'ont accès à l'eau qu'une heure par jour dans la matinée, en présence du responsable.
Oui, accès au sanitaire, tout à fait, à ce moment-là. En tout cas, en 2019, c'était le cas. C'est-à-dire qu'il
y avait... sanitaire.
Au sanitaire, aux douches, voilà.
Luna nous envoie ce message. Je voulais vous faire part d'une réflexion intuitive. Ce sera pour terminer. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que les gens du voyage sont bien moins impactants en termes de bilan carbone que les sédentaires? Pas de maison, peu de consommation d'énergie primaire, bref, un mode de vie économe des ressources naturelles. Peut-être une voie de rapprochement avec les associations environnementales.
Oui, là encore une fois, il faut pas tomber dans la caricature. Il y a beaucoup de gens du voyage qui tentent d'éviter les aires d'accueil justement à cause des conditions indignes et qui deviennent propriétaires et qui ont une maison. Mais effectivement, ce mode de vie-là, on peut le regarder aussi sous ce prisme-là. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est un mode de vie qui, à mon avis, va être de plus en plus courant dans la société.
Merci beaucoup, William Acker. Où sont les gens du voyage? Cet ouvrage est publié aux éditions du Commun.